Panorama Économie.
Bienvenue, messieurs, dames, à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres pour commencer. La RDC triple B, notation accordée par l'agence Moody's le 6 septembre dernier. C'est une note accordée à la RDC suite à la remise d'une grande partie de sa dette extérieure, mais aussi à cause des faiblesses que connaît l'économie congolaise. L'ONG Global Witness demande au gouvernement de la RDC d'ouvrir le projet de loi sur les hydrocarbures à des consultations populaires, ceci pour éviter l'opacité dans l'attribution des blocs pétroliers. Il n'y a jamais eu opacité dans ce secteur, rétorque Crispin Atamatabe, ministre des hydrocarbures de la RDC. Tout se fait dans la transparence et par appel d'offres. La Commission nationale OADA RDC a célébré jeudi l'an 1 de l'adhésion du pays à l'organisation. Un plan de 5 ans a été arrêté. Serge Malongo est directeur de la gestion institutionnelle chez Duke and Equities. C'est lui qui commente et analyse l'actualité de la semaine avec nous dans ce numéro de Panorama économique. Monsieur Serge, bonjour et bienvenue à ce magazine.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Devant le micro, Daniel Tambizoni et François Kadima pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
Encore une fois, bonjour et bienvenue à Panorama économique. L'actualité de la semaine reste marquée par l'attribution par l'agence de notation Moody's de la note triple B à la RDC.
Devant la presse mercredi soir à Kinshasa, le ministre délégué aux finances a expliqué que cette note est accordée à l'économie congolaise suite à la remise d'une part importante de sa dette extérieure en 2010. L'étude de Moody's a considéré quatre facteurs dont la fragilité de l'économie congolaise malgré ses perspectives de croissance soutenable d'un côté et de l'autre la précarité des institutions. C'est le gouvernement qui avait sollicité cette étude, a dit Patrice Kitebi, qui a reconnu les faiblesses relevées par Moody's dans les milieux financiers. Cette note est une bonne chose. Il va falloir cependant que le gouvernement tienne aussi compte de sa dette intérieure. Alkitenge, stratège et économiste, donne ses avis.
Il faut simplement dire aux Congolais que notre pays est perçu, au moins par cette agence internationale, comme de plus en plus crédible, de plus en plus responsable, à même de pouvoir emprunter de l'argent et être en mesure de le rembourser dans les délais. Être en mesure d'emprunter et de rembourser, ça veut dire affecter correctement l'argent d'autrui que nous empruntons pour qu'il reste dans le cadre pour lequel nous l'avons emprunté. Souvenez-vous que l'histoire malheureuse de notre pays est caractérisée par de l'argent que nous avons emprunté, que nous avons affecté à autre chose.
Alors, on sait que cette cotation résulte de la capacité du pays à rembourser des dettes. Peut-on dire que le pays a gagné la confiance auprès de ses emprunteurs ?
Du moins, ce qu'on peut dire, c'est que le pays est perçu comme de plus en plus maîtrisant les différents paramètres de gestion publique. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, nous dépensons sur base de caisse et non de la spéculation, que nous sommes responsables vis-à-vis de notre dette intérieure et de notre dette extérieure, et que nos engagements que nous prenons, nous les tenons dans le temps de manière stable. Et je crois simplement que cette perception qui est faite par une institution assez respectable doit se refléter à l'intérieur. Par exemple, une des choses que le gouvernement a le devoir de faire, c'est de s'occuper à donner une réponse sérieuse à la dette intérieure. C'est très bien d'être coté par Moody's, ce serait encore mieux d'être coté par les Congolais.
Ce serait encore mieux d'être coté par le Congolais, c'est ce que nous dit l'analyste Alkitenge. Voilà, nous recevons dans ce studio de Panorama économique, je vous le disais, Serge Malongo, qui est directeur de la gestion institutionnelle chez Duke and Equities. Monsieur Serge, bonjour encore une fois.
Bonjour.
Quelle analyse vous faites de cette note que Moody's accorde à la RDC ? Votre commentaire particulier ?
Tout d'abord, c'est une chose qui est quand même très intéressante pour nous, surtout dans le domaine financier, savoir que...
Où vous évoluez ?
Oui, dans lequel j'évolue, en tant que banquier, en tant que personne qui parle régulièrement avec des investisseurs, ça rassure. C'est vrai que ça rassure que nous ayons une note triple B. Quand nous connaissons, nous savons qu'il y a plusieurs pays, notamment la Grèce, notamment des pays qui sont sur l'espace Schengen, qui ont beaucoup plus de difficultés et qui sont des pays dits développés, mais qui n'ont pas cette note triple B. Je pense que nous devons sauter sur cela et bien entendu créer des moyens, donner la possibilité non seulement aux entreprises congolaises de pouvoir bénéficier de cette note-là, c'est-à-dire aller chercher des investissements et des investisseurs qui vont injecter des fonds dans ces entreprises pour que nous puissions développer le social. Parce que le grand problème, ça reste le social. Comme l'a dit Al-Kitenge, il parlait de la dette intérieure. C'est-à-dire qu'il faut régler la dette intérieure, mais surtout, il faut créer de l'emploi. De plus en plus de jeunes sortent de l'université et ne savent pas, et n'ont pas le même espoir qu'un jeune qui termine l'université, par exemple, en Europe ou dans un autre pays émergent. Bon, je ne vais pas prendre l'Europe. Prenons le cas, par exemple, du Gabon ou de l'Afrique du Sud ou de la Côte d'Ivoire. Un jeune qui termine l'université là-bas, ben, il a, on peut dire, 60% de chance à 70% de chance d'acquérir un emploi. Tandis qu'un jeune qui sort de l'université ici, ben, c'est la croix et la bannière pour lui. Il y a moins d'espoir. Mais, justement, cette note peut engendrer et peut accélérer ce mouvement-là et surtout convaincre les investisseurs et les sociétés, les grandes sociétés étrangères, les multinationales, de venir s'implanter au Congo.
Oui, triple B, une note intermédiaire, a dit le ministre. Al-Kitenge pense que nous sommes crédibles auprès de ceux qui peuvent nous emprunter
l'argent. Nous devenons de plus en plus crédibles.
Oui. Est-ce que vous pensez qu'il sera très favorable pour nous d'avoir de faire des demandes à l'extérieur pour développer le pays en interne?
Oui, c'est favorable, mais il ne faut pas faire des demandes en désordre. Les demandes de crédit ou les demandes d'investissement doivent s'accompagner de projets concrets. Il faut qu'il y ait des projets concrets, des projets qui soient susceptibles de pouvoir développer. C'est bien beau, on peut dire, bon voilà, on a besoin d'un milliard, mais un milliard pour faire quoi? C'est sûr qu'il faut les infrastructures, les routes, etc., les télécommunications, l'énergie, ce sont des domaines qui sont très importants dans lesquels il faut investir. Mais nous ne devons pas oublier que faire venir des entreprises ici, ils ont besoin d'avoir une certaine crédibilité. Et il faut aussi injecter des fonds dans les entreprises qui sont ici sur place.
Vous avez dit faire venir des investisseurs dépend de la crédibilité. Justement, le rapport de Moody's relève la fragilité, la précarité des institutions congolaises et la fragilité même de l'économie congolaise. Est-ce que vous pensez que donner une note triple B à la RDC et à côté relever des faiblesses? Comment les concilier ces deux pôles?
Ce qu'il faut faire à ce moment-là, quand il relève, c'est sûr, la fragilité de l'économie congolaise, il faut voir aussi pourquoi ils ont dit ça. La fragilité de l'économie, ça se reflète aussi sur la façon dont on gère les différentes entreprises auxquelles on a le mandat de gestion. Donc, soit il faut multiplier les formations, ou bien avoir des personnes qui soient plus spécialisées dans le domaine. Il est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance à la politique, c'est vrai que c'est important, la politique nous gère, mais je pense qu'à des postes clés d'entreprises para-étatiques, ben je pense qu'il faudrait aussi des spécialistes en gestion, des spécialistes dans la gestion des entreprises. Je pense que il y a, je ne sais plus, je pense au Mali, je crois qu'il y a eu élection, je pense si c'est au Mali.
Tout récemment.
Le président ou le premier ministre, le premier ministre qui a été nommé, je pense que c'est un banquier. Pourquoi ils ont fait ce choix-là? Ben ils ont fait ce choix-là justement pour des raisons techniques.
La personne qu'il faut à la place qu'il faut.
Voilà.
Alors nous allons tout de suite prendre le deuxième dossier de la semaine, célébration jeudi à Kinshasa de l'an 1 depuis l'adhésion de la RDC à l'OADA. La Commission nationale OADA-RDC a à l'occasion présenté le plan quinquennal 2013-2017 pour la mise en exécution du droit OADA au Congo.
Oui Daniel, le président de la Commission nationale a indiqué que ce plan d'action comprend 4 composantes dont la mise en œuvre effective de l'OADA en RDC, la promotion du droit au OADA, le fonctionnement de la Commission nationale ainsi que le registre du commerce et de crédit immobilier. Il a dit à Paul Matendo.
Le plan d'action a été actualisé pour devenir un plan d'action quinquennal de 2013 à 2017, mais qui connaîtra une actualisation avec la contribution de tous les membres de l'Assemblée générale au début de l'année prochaine. De ce plan d'action, on tire tous les trois mois un programme trimestriel. Chaque mois, un rapport mensuel adressé donc à l'autorité de tutelle permet de voir où on en est par rapport à l'exécution du plan d'action tel que rendu trimestre par trimestre. Pour l'espace OADA, nous aurons à l'université de Kinshasa un master, c'est-à-dire un troisième cycle de droit OADA. Nous aurons à l'université protestante au Congo également un master de droit OADA. Et enfin, à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, nous aurons un master en comptabilité.
Merci beaucoup, Paul Makendo. Monsieur Serge Malongo, vous commentez l'actualité avec nous. Un an depuis que la RDC a adhéré à l'OADA, les institutions se bousculent pour se conformer à ce droit. Et justement, on parle plus du système comptable aujourd'hui. Quel pouvait être l'avantage de conformer son plan comptable au système OADA?
L'avantage, c'est au niveau justement de la gestion. La gestion proprement dite, la comptabilité, c'est la base
du poumon de l'entreprise.
Ouais. Si les personnes qui sont des experts comptables sont bien outillées et comprennent le système, le nouveau système qui est OADA et s'adaptent, je pense que ce système a fait des preuves en Afrique et à travers le monde. Et si une personnalité comme le professeur Massamba, que j'ai l'honneur d'avoir eu comme professeur en droit économique, s'y est attelé et s'il est président de cette commission, ce n'est pas pour rien. Donc, c'est important que les différents experts comptables puissent s'aligner. Et je pense que déjà, même si ce n'est qu'un an, on commence à voir quand même une différence, je ne dirais pas notable, mais significative. Les gens s'attellent à comprendre c'est quoi le système OADA, ils s'informent.
Vous évoluez dans le secteur financier, vous êtes banquier. Quel est le bien fondé de cette organisation pour le secteur des banques?
Pour le secteur des banques, c'est l'uniformisation des règles. On a parlé tout à l'heure.
Une opération est comprise de la même façon par toutes les institutions bancaires.
Par toutes les institutions bancaires.
Ça facilite les opérations.
On a parlé du droit, les règles en droit immobilier, par exemple pour les différents crédits, les différentes garanties. Tout ça, c'est relevé dans le code OADA. Et je pense que ça uniformise. Tout le monde ne pourra pas faire sa loi comme il l'entend. Tout le monde est tenu justement, sera assujetti et régi par un même code, et raison pour laquelle je pense que c'est très important.
Est-ce qu'il y a de la crédibilité quand on adhère à un système tel que OADA aujourd'hui par rapport au système bancaire?
J'ai pas compris.
Vous pouvez arrêter. Il y a de la crédibilité quand
on... Oui, bien entendu. Bien entendu, il y a de la crédibilité. Et je pense qu'à partir de cela, les personnes vont donner même une cotation aux entreprises, aux institutions financières. Est-ce qu'elles suivent ce code? Est-ce qu'elles sont en règle? Je pense que c'est très important. C'est très important.
Troisième dossier de la semaine, les prix des matières premières toujours en baisse sur le marché international. Le cobalt et le cuivre ont respectivement perdu 1,52% et 1,77% de leur valeur d'il y a quelques semaines.
C'est la troïka stratégique du secteur productif réunie lundi autour du Premier ministre qui a fait ces révélations après l'analyse de la situation économique et financière au niveau national et international jusqu'au 30 août 2013. Paul Matendo nous en dit plus.
Le communiqué de la Troïka stratégique annonce que la tonne de cuivre au 30 août a coûté 7 210 $ contre 7 340 $ une semaine avant. La tonne du cobalt s'est fixée, elle, à 28 665 $ contre 29 106 $ la semaine précédente. Par contre, les prix des produits pétroliers sont en hausse de plus de 3% aussi bien sur le marché de Londres, 113,96 $ que sur celui de New New York, 107,70 dollars. Au plan national, les prévisions de la croissance revue sont maintenues à 7,8% pour 2013. Sur le marché d'échange, la Troïka note une appréciation de 0,1% du franc congolais face au dollar et une dépréciation de 0,18% sur le marché parallèle. Les finances publiques ont enregistré un déficit provisoire du compte général du Trésor au 30 août 2013 de l'ordre de 28,2 milliards de francs congolais. C'est la différence entre les prévisions en recettes de 270 milliards de francs et des dépenses exécutées à hauteur de 299,1 milliards de francs congolais.
Panorama économique chez vous sur Radio Okapi, sur la rétrospective de l'actualité économique de la semaine commentée par un expert, un spécialiste. Et aujourd'hui, nous avons M. Serge Malongo qui est avec nous dans ce studio. Monsieur, cette réunion, ce compte-rendu de la réunion de la Troïka qui relève par exemple la baisse des cours internationaux de produits de matières premières. Quel comportement, vous, par exemple, dans le secteur financier, vous adoptez lorsque vous apprenez des nouvelles comme celle-là, la baisse du cours de matières premières?
Bon, il faut toujours bien entendu analyser d'abord le pourcentage et le rendement. La baisse que nous avons, c'est pas une baisse qui est drastique. Faut pas oublier que il y a peu de temps, le gouvernement a annoncé des règles justement pour réguler ces différents secteurs, ces différents marchés. C'est tout à fait normal que tous les acteurs qui sont dans ce domaine-là observent un petit peu la situation, d'où cette légère baisse. Pour moi, je pense très sincèrement que dans très peu de temps, les choses vont reprendre très fortement.
Alors il faut un peu de prudence parce que la RDC est productrice de ces deux produits, du cobalt et du cuivre.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il faut un peu de prudence. Je pense que le gouvernement veut essayer de voir qui fait quoi et de régler un petit peu qu'il n'y ait pas trop de désordre dans ce secteur-là. Parce que c'est un secteur, bien entendu, qui est poumon pour la RDC.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
À présent, le reste de l'actualité économique de la semaine. En bref, célébration jeudi de la journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Dans son message publié à l'occasion de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies a souligné que la coopération Sud-Sud offre des solutions réelles et concrètes à des problèmes de développement commun.
Rencontre mercredi entre le ministre provincial de l'Intérieur du Katanga et les responsables des différentes maisons de presse de Lubumbashi. Objectif, sensibiliser ce dernier à payer les différentes taxes et redevances dues à l'État congolais. À l'issue de la réunion, un délai de 45 jours a été accordé à tous les concernés pour s'acquitter de leurs devoirs. Dépassé ce délai, les récalcitrants verront leur signal coupé, a indiqué Juvenal Kitungwa Lugoma.
Et ces cris de cœur de l'Association des commerçants congolais évoluant à l'étranger qui tenait à participer aux concertations nationales. Son président, en tête d'une délégation qui séjourne déjà à Kinshasa, ne comprend pas comment le nom de l'association ne figure sur aucune des listes. Pour lui, cette rencontre est le lieu indiqué pour faire connaître les difficultés que connaissent les Congolais exerçant en dehors de leurs frontières nationales. Monsieur Soumaïli.
Nous demandons seulement que nous soyons aussi impliqués. Je loue d'abord l'initiative du chef de l'État dans le cadre de cette concertation, parce que nous, les commerçants, nous allons y trouver notre part. Et je voudrais nécessairement faire entendre la voix de cette structure qui est l'Association des commerçants congolais, comme vous l'avez deviné, l'Association des commerçants congolais opérant à l'étranger, qui veut aussi parler et qui veut que leurs droits aussi soient retrouvés. C'est-à-dire quoi? Les commerçants congolais a une structure national qu'international, il veut se faire voir aussi dans cette concertation nationale. Donc, il a des problèmes aussi à poser, il a des solutions aussi à apporter dans cette concertation nationale. Prenons le cas d'un commerçant qui descend à Johannesburg, s'il n'est pas protégé, s'il n'est pas facilité, il peut être escroqué, même son propre frère peut l'escroquer. Notre structure est au Congo, à l'étranger, pour protéger, pour faciliter la tâche aux commerçants. Par exemple, il se trouve volé, il a des problèmes, nous avons des bureaux un peu partout. Donc pour nous, nous sommes une grande structure qui doit apparaître, qui doit se faire aussi entendre dans la République démocratique du Congo à travers cette concertation nationale.
Le port public de Goma est un bien public, cependant tout armateur a le droit d'y accoster. C'est la position du ministre provincial en charge des affaires foncières en rapport avec la situation qui prévalait dans ces installations portuaires du Nord Kivu, où certains armateurs éprouvent des difficultés pour accoster, bloqués par un contrat de location signé récemment entre la SNCC et la Bralima. À noter que d'autres stratégies durables sont en train d'être envisagées pour désengorger le port public de Goma. C'est entre autres la délocalisation de ce port vers Kitoukou à la périphérie ouest de la ville pour permettre une meilleure gestion du trafic lacustre.
Les agents de la régie des voies aériennes RVA Mbandaka se plaignent. Ils disent avoir travaillé durant 9 ans comme temporaire sans être engagé. Et à leur grande surprise, le commandant de l'aéroport de Mbandaka vient de leur demander de cesser toute activité. Ce dernier déclare que la décision de leur licenciement est venue de l'administration centrale de Kinshasa.
Rendons-nous au Kasaï occidental où plus de 350 nouveaux abonnés à l'électricité du Congo et des séances sigles accusent cette société de geler leur connexion au réseau électrique dans la ville de Chikapa. Ils affirment avoir déposé leur dossier et le frais exigé pour le raccordement depuis janvier dernier. Le directeur de l'EDC annonce de son côté la réception de 90 compteurs pour régulariser leur situation.
Matière première.
Global Witness demande instamment aux autorités congolaises d'ouvrir le projet de loi sur les hydrocarbures à une consultation publique comme elles l'ont fait avec la révision du code minier. Dans ce communiqué publié vendredi dernier, l'ONG britannique estime en effet que la loi sur les hydrocarbures telle qu'elle se présente à l'heure actuelle créerait un système opaque d'attribution de droits pétroliers et ne rendrait pas obligatoire la publication de contrats pétroliers ou l'identité de propriétaire réel ou effectif de licence pétrolière. On écoute Nathanel Dayewu, chargé de campagne à Global Witness, au téléphone de Pele Kipelamondo.
Concernant spécifiquement cette projet de loi des hydrocarbures qui est actuellement devant le Parlement. Nous trouvons bizarre que pour la révision du code minier, il y a une consultation publique, mais pour la loi des hydrocarbures, il n'y avait pas de consultation publique jusqu'à là. Concernant le code minier, il est prévu qu'il y aura une réunion tripartite, gouvernement, société civile et l'industrie, un atelier où tout le monde peut se rassembler et discuter et analyser la loi et avancer ensemble. J'aimerais voir la même chose dans le domaine des hydrocarbures. Il y a beaucoup d'attention naturellement sur les mines en Congo, mais on oublie des fois que le secteur des hydrocarbures apporte beaucoup de revenus également à l'État congolais. D'après les derniers chiffres de ITIE, le secteur des hydrocarbures a apporté 325 millions de dollars américains à l'État congolais, qui est presque 40% des revenus totaux des industries extractives. Global Witness aimerait voir les garde-fous contre la corruption et pour protéger l'environnement dans le nouveau code des hydrocarbures.
Et en réaction aux propos de Global Witness, le ministre des hydrocarbures estime que tout se fait dans la transparence. Le mode d'attribution des blocs pétroliers pour exploration reste la voie d'appel d'offres. Crispin Atamatabe a ainsi réagi lundi à Radio Okapi. Il souligne que le gouvernement de la RDC a le droit de faire l'exploration pétrolière partout où il veut, même dans des zones protégées, mais tenant compte de la protection de l'environnement. Crispin Atamatabe est au micro de Paul Matindo.
J'ai eu à parcourir la proposition de loi. On a bien écrit que l'attribution de blocs se fait par appel d'offres. Ils veulent que nous ne puissions pas mettre pied dans le parc de Virunga, c'est ça. Donc, tout le reste, c'est la distraction. J'ai lu son article et dit que les contrats antérieurement signés ne sont pas connus. S'il va au ministère des Mines, il va consulter le site web promis et tous les contrats signés avant notre avènement sont publiés. Même au ministère des Hydrocarbures, nous disposons des sites web. Il n'y a qu'à consulter. Le monde entier peut regarder ce qu'il y a là-dedans. Concernant leurs préoccupations de l'espace ou des zones protégées, la RDC doit faire une évaluation réelle pour savoir qu'est-ce qu'il y a sous le parc. Ça nous appartient. L'adhésion de la RDC à l'UNESCO ou le fait de confier la gestion du parc de Virunga comme patrimoine mondial n'enlève en rien la souveraineté de la RDC sur cette portion de terre.
Voilà, c'est avec ce dossier sur les hydrocarbures que nous allons tendre vers la fin de Panorama économique. Mais avant cela, nous donnons la parole à notre invité, M. Serge Malongo. Il est question aujourd'hui, il est conseillé à la RDC de diversifier son activité économique pour appeler le développement. Mais le secteur des hydrocarbures en RDC, on ne semble pas y faire très attention, alors que ça va constituer un boom peut-être dans les jours à venir. Et là, Global Witness tire la sonnette d'alarme pour demander au gouvernement que la loi qui va gérer ce secteur soit ouverte à la consultation populaire. Votre commentaire, un petit commentaire?
Oui, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien dire ici. Il y a la loi pour justement gérer un petit peu l'octroi des titres en hydrocarbures, mais pourquoi ne mettons-nous pas l'accent sur le développement du marché qui existe? Nous avons nos voisins angolais qui arrivent à tirer des revenus énormes dans le domaine pétrolier. Je pense que il faut que les Occidentaux, il faut qu'ils nous aident justement plus à devenir un pays qui développe ce marché-là. C'est un secteur qui va faire la différence au niveau du développement du pays ici. On voit juste ici à côté de nous, à Brazzaville, les revenus qu'ils obtiennent rien qu'avec le pétrole, avec la manne pétrolière, sont exorbitants. C'est ce qui fait que leurs infrastructures semblent même plus, entre guillemets, plus appropriées que les nôtres. Mais c'est vrai qu'il faut savoir à qui on attribue quoi, mais entre-temps, pensons aussi à développer ce secteur avec des réformes clés.
Mais tout est censé être géré par une loi qui doit définir comment doit se marcher.
Oui. Oui, la loi existe déjà. La loi est déjà là. Le ministre, quand même, il a donné un point important. Nous sommes ici au Congo, c'est notre terre, c'est notre pays. C'est important, c'est toujours un peu frustrant qu'on vous dise quoi faire chez vous. C'est sûr que si vous êtes chez vous à la maison, moi je peux pas venir vous dire mais votre vaisselle n'est pas faite. Vous allez me dire mais ça vous regarde en quoi? Il faut du temps pour développer un pays. Je pense que trouvons des solutions. Je pense que Global Witness devrait nous dire voilà, si on veut atteindre exemple 10 millions de barils par an, voici ce qu'il faut faire. Si on veut atteindre 50 millions de barils par an, voici la solution. Et cette solution passe par ça, ça, ça. Si ça doit passer justement par le fait qu'il faut régler justement ce problème juridique et ce problème légal au niveau de l'Assemblée, oui, mais qu'il y ait un plan, qu'on nous dise comment faire pour sortir de cette crise. Parce que c'est une crise quand on voit ce potentiel en hydrocarbures que nous avons
et qui n'est pas exploité.
Ça fait mal, ça fait très mal.
Et nous allons peut-être dire un mot, ouvrir une petite parenthèse sur vos activités. Vous avez dit vous êtes directeur de la gestion institutionnelle chez Duke and Equities.
Oui. Ça,
c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce que vous faites?
Voilà, nous sommes une firme d'investissement, nous sommes un fonds d'investissement et ce que nous faisons, c'est Nous levons des fonds pour aider les entreprises dans des secteurs en croissance. Nous les aidons justement par des investissements pour les aider à atteindre leurs objectifs. leurs objectifs de développement. Les entreprises qui sont dans le secteur de la grande distribution, dans les secteurs de l'agroalimentaire, dans le secteur des infrastructures, la chaîne de valeur des entreprises minières. Donc c'est ce que nous faisons un petit peu.
Vous êtes basé à Kinshasa?
Nous sommes à Kinshasa.
Seulement?
À Kinshasa seulement, pour le moment.
Et c'est sur cette note-là que nous allons refermer Panorama économique de cette semaine. Notre invité, Serge Malongo. Merci Serge d'avoir répondu à Et devant le micro, c'était François Kadima et Daniel Tampizoni. Chers auditeurs, nous vous remercions de votre attention. Très bonne suite de programmes sur votre radio.